Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Moi, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est
la cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République parce qu'on sait jamais. Hein.
Ça va tout changer parce qu'en plus j'habite à Paris.
J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler?
90% du temps était dans sa chambre, sur son lit ou.
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.
Bonsoir, chers auditeurs.
Bonsoir, chères auditrices.
Et pas bonsoir à Thomas, parce qu'il est pas là.
Ce soir, c'est Victoire, notre super nouvelle régisseuse qui prend les commandes, accompagnée, comme toujours évidemment, de la joyeuse bande de la première radio étudiante de la plus belle fac de France.
Et toujours là pour vous servir, vos animateurs préférés de cours d'honneur. Pendant une heure, c'est toi, ma chère Lodine.
Et toi, mon cher Abel, qui allons présenter cette émission.
Donc pas de panique, n'éteignez pas votre radio, car ce soir on vous promet une émission plus qu'à la hauteur.
Avec du rire.
Vous êtes célibataire, c'est pas à cause de votre rire.
J'espère pas.
Non.
Mais aussi des interviews captivantes. Et
vous ignoriez.
Mais pas du tout.
Que sur les 70
milliards... Vous n'êtes pas là pour nous dire ce que je sais ou ce que je ne sais pas.
Mais
c'est pas vous qui posez les questions.
Et de la poésie, bien sûr.
Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite, je disperse, je ventile.
Ensemble, nous répondrons à la question.
Être étudiant à la Sorbonne, c'est quoi?
Dis-moi, Lodine, qui nous accompagne ce soir?
Très bonne question, Abel. Ce soir, pour enflammer le plateau, nous avons Jeanne, le charisme en personne.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous fais une chronique débrouille sur les ateliers artistiques à Paris.
Eh ben, on a hâte de voir ça, parce qu'on a tous des âmes d'artistes ici. Et puis, on a venu les bras ballants. Mélie, bah alors, qu'est-ce qui se passe?
Ah oui, pardon, moi, je suis dépassée avec les masters et les concours des écoles, donc c'est ma première en touriste ce soir.
C'est pas grave, il y en a une qui est pas venue à cause de ça, c'est Lilou, mais on l'embrasse très fort. Isa Margaret, qui nous parle de pieds ce soir, t'es fétichiste, Isa Margaret?
Bonsoir, bonsoir. Non, pas encore, mais peut-être que vous le serez à la fin de cette émission.
Ah, j'espère.
Zina, la star de l'émission, est de retour. Comment ça va ce soir?
Bonsoir tout le monde. Eh bien, Lodine, ça va très très bien. Pour ma part, j'aurai la chance d'interviewer Caspar Ravel.
Hâte d'entendre Caspar Ravel au micro de Zina. Sans oublier à la régie, la petite stagiaire de 3e et qui a intérêt à faire partir les sons à l'heure ce soir, c'est Victoire. Comment ça va, Victoire? Branche ton micro.
Ça va et vous? Bah moi ça va très bien, j'ai tout branché donc c'est nickel.
Première à la régie, tu t'en sors?
Pour l'instant ça va. Okay. Sur le script il y a marqué des trucs, je les ai pas dans ma table mais sinon c'est bon.
Mieux que Thomas en tout cas.
Ouais, ça c'est sûr. Et puis on pense bien sûr à tous ceux qui n'ont pas pu être là et surtout à Loane, notre membre préféré, mais chut, ça reste entre nous. Bref, une sacrée équipe pour une sacrée émission.
Un mercredi sur deux, en direct, un vendredi par mois.
Saison 3, épisode 18.
Cours d'honneur, nous revoilà.
Et pour bien démarrer ce soir, voici l'édito, la carte blanche de RSU.
Eh bien, c'est leur seule façon de montrer qu'ils existent.
Là, c'est vraiment facile.
Carte blanche.
Pour cette émission spéciale, en l'absence de notre recruteur en chef, c'est justement lui qui se charge de l'édito cette semaine.
Thomas nous envoie un petit avertissement depuis sa lointaine contrée.
Ah, les petits cons, ça y est, ils ont réussi à me jeter par-dessus bord. Il n'y a pas si longtemps que ça encore, ils faisaient leurs premiers pas dans le studio. Je revois Lodine, les lèvres tremblantes, j'entends encore sa voix dérailler quand elle prend le micro de l'animation pour la première fois comme Eva Colas à Miss Univers en 2018. Et donc là, la semaine dernière, je leur annonce que je serai absent pour la prochaine émission. Pas de souci, me répond Abel, tout de go, on va enfin pouvoir s'amuser dans cette émission.
C'est mortel.
Et voilà, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Oui, mais méfie, car en chaque homme de radio sommeille un félin qui ne demande qu'à jaillir. Oui, demandez à Victoire. Car oui, pour le moment, vous n'êtes que des matous. Et je sais que vous aiguisez vos griffes comme vos dents qui rayent le parquet. Oui, oui, oui. Je pense à la nouvelle génération de journalistes, là, qui va venir me pousser vers la sortie. Les Mélie, Lilou, Louane, Sora, Jeanne, dont certaines sont déjà admissibles. Oui, mais sachez qu'il en faudra beaucoup plus pour me balayer. Oui, le lion peut encore rugir. Cela dit, c'est avec une joie non dissimulée que je vous sais ce soir à Paris, gris, pluvieux, dans le studio ce soir, en train de concocter un nouvel épisode de notre cher Cour d'honneur. Pendant que moi, je me détends en Provence, entre la Méditerranée et le Luberon, armé d'un pastaga, Mino.
Le plus fort, on va passer un dimanche au coude. En famille, en famille, que l'on soit riche ou non, c'est un plaisir que personne ne boude. Le rêve marseillais, un soir d'été au cabanon. Oui,
passez... Alors mes chers ouailles, prenez exemple sur Isa, sur Maëlys, sur Marine, sur Zina, sur Mélina. Il faut travailler dur pour obtenir le titre de MVP et pouvoir assurer le soir au micro de RSU et aussi assurer la nuit dans les rues de Paris. Voilà, alors avant de partir faire la teuf ce soir après l'émission et pour tout le reste de votre vie, repensez à ce que vous disait le vieux Schnell. Yo yo yo.
Je crois que c'est très bien résumé comment Thomas parle dans la vraie vie. Et puis il dit la team parce qu'il pense que c'est cool de dire ça, alors que c'est juste Victoire qui se fout de sa gueule en le disant. Mais tu l'auras entendu ici, Thomas. Arrête de conclure tes mails pro avec la team, s'il te plaît.
Mais non, on aime beaucoup yo yo yo.
Sinon, qui lui dit qu'il fait beau à Paris, qu'on n'a pas du tout le seum d'être à Paris sous la grisaille ? Zina, je sens que t'as envie de lui dire.
Eh ben oui, nous on est très contents d'être à Paris puisque ce soir et pendant toute la journée il a fait si beau et commence à faire chaud, on sent les effets du réchauffement climatique, c'est très appréciable.
Ou du départ de Thomas, je sais pas.
Exactement.
Les futurs journalistes, là ils vous attaquent un petit mot à lui répondre ? Non ? Pas de soucis ?
Bah déjà, félicitations, oui, à nos admissibles, puisque oui, il y en a qui sont admissibles à Sciences Po ici. Et puis, on travaille dur, hein, on est tous sous l'eau, donc oui, il peut se la couler douce. C'est sûr qu'il y en a qui travaillent à côté.
Oui, il y en a qui travaillent à côté. D'ailleurs, Thomas, en fait, il est dans le sud pour bosser ou pour être en vacances ?
Non, mais il est à la retraite, en fait, Adèle.
Là, ça y est. Il est déjà trop vieux.
Ça y est. Il n'en peut plus, il a fait un burn-out. Il a arrêté.
En parlant de burn-out, Lodine, tu sais ce qu'il y a dans la vie ?
Bah oui, bien sûr, Abel. Dans la vie, il y a des hauts.
Et il y a des bas.
Et maintenant, place au débat.
Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville... Allez vous faire foutre.
Hey Abel, tu sais ce que j'ai lu dans l'Humanité ce matin ?
Non, dis-moi Lodine.
Sur nos 34 ministres, il y en a 17 qui sont millionnaires.
Ah bon ? Ah mais c'est pour ça que le vieux Macron veut pas taxer les riches, c'est parce que c'est ses copains.
Ouais, on rigole, mais c'est grave quand même. Ils doivent être complètement déconnectés de la réalité.
Qu'en pensent les étudiants de la Sorbonne ? On vous a posé la question.
Je m'appelle Maël, je suis en L3 d'histoire à la Sorbonne. Du coup, la politique c'est censé être pour représenter le peuple et pour le peuple, par le peuple. Et le fait qu'on ait des ministres millionnaires, du coup, c'est pas représentatif du peuple. Et souvent, bah, c'est ce qu'on peut retrouver même dans les partis qui vont se revendiquer d'extrême gauche. C'est un peu problématique.
Je m'appelle Soizic, je suis une élève de la Sorbonne en L3, en licence de lettres, édition média. Je pense qu'effectivement, quand on ne vit pas dans les mêmes conditions que les gens qu'on représente, on peut être complètement déconnecté. Il y a peut-être une incompréhension, ou alors on ne saisit pas forcément la réalité dans toute son entièreté.
Je m'appelle Pauline, j'ai 25 ans, et je suis étudiante en médiation de la musique. Et je pense qu'on est forcément déconnecté quand on est ministre et millionnaire. On est forcément déconnecté de la réalité de la majorité de la population.
Je m'appelle Sana, je suis un master de philosophie politique à Paris 4. En fait, en étant ministre millionnaire, on n'a pas le même rapport à la vie, parce qu'on n'a pas cette nécessité, par exemple, de travailler, cette difficulté à finir les fins de mois, et pour moi, non, ça fait absolument pas sens.
Je m'appelle Alésia Burguet, je suis étudiante en philosophie à Paris. Une fois qu'on a atteint un certain niveau économique, on perd un petit peu un sens des réalités. La plupart des gens dans ce pays ne sont absolument pas au niveau des gens qui nous gouvernent.
Je m'appelle Camille, je suis étudiante à la Sorbonne.
Oui, pour moi, c'est carrément un problème que c'est pas représentatif de ce que vivent les gens. Et c'est impossible de prendre des mesures quand t'es totalement à côté de la plaque de ce point de vue-là. Ils sont là, ils parlent de précarité étudiante, gna gna gna, faut donner son logement pendant les JO. Ils ont pas connu ça. Tu vis avec un salaire totalement supérieur à la normale, tu peux pas savoir ce que c'est en fait.
Il y a des millionnaires autour de la table qui veulent donner leur avis.
Non, des millionnaires, non. Mais alors, si vous saviez comme ce sujet tombe à point, puisque je passe Sciences Po Lyon samedi, et le sujet, c'est sur l'évasion fiscale et justement comment les politiques publiques se complaisent dans justement favoriser les riches et éviter de les taxer. Alors, ça me fait plaisir de l'entendre.
Oui. Les autres, plus sérieusement, bon, vous n'êtes pas millionnaire, vous trouvez ça normal qu'on puisse être millionnaire? Enfin, ok, on peut être millionnaire, mais
est-ce que ça pose problème en fait?
Est-ce qu'on comprend maintenant certaines politiques qu'on nous comprend pas en tant que jeunes précaires?
Moi, je crois que le problème c'est pas d'être millionnaire, c'est le fait que en étant millionnaire, en fait, notre conscience est déterminée par, je parlerai en marxisme, mais par nos conditions d'existence, et donc on a du mal à envisager les conditions d'existence de personnes qui n'ont pas les mêmes ressources que nous. Donc, je pense que ça peut poser problème pour faire des choix et pour représenter le peuple.
Moi, ça m'a fait penser à Jean-François Copé, il y a 10 ans, qui avait dit que le prix du pain au chocolat, c'était 10-15 centimes.
Oui, oui, je me rappelle.
Bah, on en est loin. Et ça montre qu'ils sont vraiment déconnectés pour la plupart.
Fille de boulangère le dit, hein, juste pour vous dire.
Ah oui, j'ai pas fait exprès la référence.
Zina, t'avais quelque chose, non?
Non, pas vraiment. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment déconnectés. Mais ça, de toute façon, nos parents le disaient, nos grands-parents aussi, etc. Donc, c'est toujours la même chose.
Toujours la même soupe, comme on dit.
Mais au fond, ce qui compte, c'est pas l'argent, non? Est-ce que c'est pas finalement la richesse qui est là, au fond de notre cœur?
Bah, dans ces cas-là, je suis milliardaire, en fait, Lodine.
Ouais. Et tu sais, justement, ce qui pourrait accroître ce patrimoine sentimental, Abel? Eh bien, écoutez un peu de Taylor Swift, bien sûr. Donc, tout de suite, on bouge avec Shake It Off.
Shake, 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 shake est 20h15 sur Radio Campus Paris et vous venez d'entendre la musique préférée d'Abel.
Laudine, j'ai un problème. Laudine, j'ai un problème avec mon ordinateur, il est cassé.
Ah mais là, ça va être compliqué, Abel. J'y connais pas grand-chose en informatique, moi. Mais notre prochain invité, lui, je crois qu'il sait y faire.
L'artiste peut surgir n'importe où.
Il n'y a aucune raison logique pour qu'il y ait moins de talents créateurs au XXe siècle qu'au XVIIe.
Tout de suite, nous retrouvons Caspar Ravel, actuellement en résidence d'artiste à la Sorbonne.
Et c'est Zina qui aura le plaisir de nous plonger dans l'univers coloré de cet artiste numérique.
Bonsoir Caspar Ravel, merci d'être avec nous ce soir sur Radio Sorbonne. Donc comme l'ont dit mes camarades, vous êtes en résidence d'artiste. Ma première question est donc la suivante, qu'est-ce qu'une résidence d'artiste et comment est-ce que ça fonctionne ?
Bonsoir Zina et bonsoir du coup tout le monde aussi à Radio Sorbonne. Une résidence d'artiste, c'est assez extraordinaire en soi, mais ça se définit très simplement en général en trois parties. Donc on a une phase de recherche où je vais rencontrer des scientifiques, des gens aussi de la faculté des lettres, des gens aussi de la faculté de médecine. Donc un peu, je suis en gros considéré comme un personnel interfacultaire. Et pendant cette phase de recherche, en gros, je vais discuter de mon projet artistique. Après, il y a une phase d'élaboration, de création. Je vais créer des œuvres en fonction des recherches que j'ai faites. Et puis après, une troisième phase où on expose toutes ces œuvres, du coup.
Qu'est-ce qui vous a conduit à participer en particulier à cette résidence d'artiste ? Y avait-il un projet de prévu en amont ?
Alors, c'est vrai que... moi, je connais assez bien la Sorbonne, dans le sens, enfin, je connais assez bien la faculté des sciences, aussi un peu la faculté des lettres. J'ai étudié dans les deux, presque. Et du coup, c'est un milieu qui m'est assez familier. Donc, étant artiste aussi, je me suis dit, pourquoi pas résider là-bas, mais du coup, y avoir un autre regard. C'était aussi l'occasion de confronter un peu ces recherches que j'ai, qui sont parfois pas forcément très académiques, qui sont des recherches un peu plus artistiques que je fais sur le vol comme ça, et les confronter justement à des gens qui sont doctorantes, chercheurs, chercheuses, pour voir un peu là où on se rejoint, là où on se rejoint pas, et qu'est-ce qui est intéressant.
Cet échange entre vous et les différents chercheurs, que ce soit en sciences ou en lettres de Sorbonne Université, a certainement été facilité donc par votre double compétence, votre double casquette d'artiste codeur. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours atypique et de la manière dont vous avez intégré le code dans votre pratique artistique ?
Yes. Je suis né dans les années 90, en 92, et du coup, je suis né pile à un moment un peu lisière où les ordinateurs avaient des interfaces qui étaient encore un peu poreuses. C'est-à-dire qu'on pouvait lire le code des programmes qui nous étaient donnés, où on pouvait facilement éditer des choses. Là où c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de mal parfois avec le smartphone ou des choses comme ça. Enfin, c'est plus difficile à détourner. Je ne suis pas en train de poser des jugements de valeur là-dessus, mais c'était pour dire qu'il y a eu vraiment ce moment un peu lisière qui permettait de pouvoir explorer une sorte de texture qui appartenait à ces médiums-là. Et du coup, ce que je fais aujourd'hui en tant qu'artiste, c'est que je continue à explorer du coup, les textures de chaque médium. Donc ça peut être des nouveaux médiums aujourd'hui, ça peut être par exemple la photogrammétrie, donc le fait de prendre des objets en photo en 3D, ou ça peut être codé sur de l'ADN, comme je fais en ce moment du coup, à la Sorbonne, ou des trucs beaucoup plus low-tech, comme le tissage, qui sont aussi reliés à l'informatique. Donc voilà, ça va être cette idée en fait d'explorer les textures inhérentes à chaque médium.
L'année dernière, vous avez travaillé sur le projet Quelques formes discrètes. Selon vos propres mots, vous détourniez justement les technologies de manière créative. Vous avez notamment collaboré donc avec des chercheurs. Est-ce que vous pourriez nous dire en quoi est-ce vraiment important de cultiver sans cesse des interactions avec les chercheurs ?
Ouais, c'est vrai que c'était un moment chouette. En plus, on avait fait... Je prends un exemple du coup. Hein. On avait fait une œuvre avec Simone Azeglio de l'Institut La Vision. Et moi, en fait, j'ai vachement tendance à me faire des représentations visuelles des choses. Et Simone, lui, sa vision est beaucoup plus numérique. Et pourtant, il travaille à l'Institut La Vision. Et ce qu'on a fait, en fait, ensemble, c'est qu'on a pris une intelligence artificielle et on l'a littéralement disséqué pour voir il y avait quoi à l'intérieur des neurones. Et c'est à la fois un moment chouette pour moi, parce que moi, c'était la première fois que du coup, j'étais accompagné techniquement par quelqu'un qui pouvait m'aider à disséquer une IA. Et lui, c'était la première fois qu'il se focalisait vraiment sur les attributs visuels de l'intelligence artificielle. Donc il y a un peu cette forme de double entente, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais qui était vraiment, vraiment chouette dans ce projet.
Eh bien, justement, vous parliez donc des IA. Dans le contexte actuel où l'intelligence artificielle et l'art se rencontrent, notamment à travers des IA génératives telles que Midjourney ou Dali, quelles sont vos réflexions sur cette intersection?
Ouais, c'est une question vachement intéressante. Je pense qu'elle fait partie de celles qui m'empêchent de dormir le soir. Pas forcément en bien ou pas forcément en mal, parce que j'ai tendance à penser que l'IA n'est pas forcément mal. C'est bien sûr l'utilisation qu'on en fait, mais aussi le diable est souvent dans les détails. Je trouve qu'à la fois, ça permet des nouvelles choses. Je trouve que justement, en tant qu'artiste, on va rarement assez à la recherche des textures inhérentes de chaque médium dont je parlais un peu plus tôt, et que par contre, justement, l'IA a un potentiel créatif immense à partir du moment où on arrive peut-être à la détourner, à essayer de lui faire dire des choses qu'elle n'a pas l'habitude de dire. Et pour moi, du coup, il y a plusieurs utilisations de l'IA. Il va y avoir une utilisation lisse, qui n'est pas forcément mauvaise, hein, qui peut être très chouette aussi. Et une utilisation que je vais appeler plutôt striée, pour reprendre un peu le terme de Leuzien, quoi.
Dans quelle mesure votre art nous aide-t-il à interpréter le monde moderne?
Oh, waouh. Ouais, j'essaie de pas trop être sociétal dans l'art que je fais, mais ça m'arrive malgré moi. Cette année, par exemple, je travaille beaucoup sur le nucléaire, du coup, mais peut-être que vous allez me poser des questions après là-dessus. Ok. Mais en tout cas, ouais, mon art, il joue un peu aussi ce rôle de témoignage de l'époque technologique dans laquelle on vit. Et j'essaie de pas forcément trop me positionner politiquement, parce que j'ai ces positions que je développe aussi en dehors de ma pratique individuelle, mais plus sous des formes de pratiques collectives. Mais dans ma pratique individuelle, en tout cas, c'est plus une forme de témoignage, du coup, des époques technologiques dans lesquelles qu'on traverse.
Vous avez également participé à l'exposition Imago Mundi lors du festival CES. Est-ce que vous pourriez revenir un peu sur cette expérience?
Oui. C'était celle avec les trucs en IA et tout ça. C'est quelqu'un de très 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 étrange et très très fun qui s'appelle Ronan de la Croix qui m'a appelé parce que je suis son contact en fait quand ça parle d'IA. Et là en fait c'était ça va faire longtemps, je m'en souviens plus beaucoup. Mais c'était du coup la première fois que je travaillais sur l'intelligence artificielle. Et justement, je voulais faire un twist. En gros, on avait reçu des discours de comment est-ce que les gens pensaient que le monde devrait être dans leur rêve. Et en fait, Ronan voulait que je prenne ces discours et que je les fasse interpréter par une intelligence artificielle. Et je trouvais ça très linéaire et je trouvais ça pas forcément fun de faire juste ça. Et du coup, en fait, on a rajouté toute une interprétation visuelle autour de ces œuvres générées, comme quand on les a fait vivre à travers des sortes de boules de cristal artificielles pour un peu parler justement de cette prétention que les intelligences artificielles peuvent parfois avoir à vouloir prévoir le monde, à pouvoir le prédire, pardon, justement. Et du coup, c'était assez challenge de faire à la fois une œuvre très linéaire, très très lisse, et à la fois essayer de la détourner graphiquement pour lui faire dire autre chose.
Voilà. En dehors des artistes issus de la culture classique, est-ce que vous avez des figures qui vous ont inspiré parmi des figures de la culture plutôt geek ou plutôt pop?
En dehors de l'artistique ou toujours... c'est vrai que j'ai énormément d'artistes autour de moi et tout ça. C'est vrai que je considère beaucoup d'icônes pop comme des artistes aussi, ou peut-être que je peux parler d'artistes. Mais c'est vrai que pour moi une belle référence a toujours été Namjoon Paik qui est un artiste qui travaillait dans les années 60 en fait avec les télévisions cathodiques et qui mettait en fait des gros aimants sur ces télévisions et qui détournait en fait tous les électrons qui sortaient de la télévision, et du coup on voyait plus ce qui était affiché par la télévision de manière normale, on voyait plus les gens qui étaient dans la télévision normalement, mais on voyait en fait tous ces arcs d'électrons qui partaient dans tous les sens. C'était assez fou. Pour moi, c'était une des premières fois que je voyais quelqu'un qui détournait en fait un objet du quotidien et qui en faisait une œuvre d'art, quoi.
Et aujourd'hui, donc avec tout ce recul, après ce parcours, j'ai une dernière question, ce qui est justement la question traditionnelle de l'émission. Que représente la Sorbonne aujourd'hui pour vous?
Yes. C'est vrai que la Sorbonne est devenue très grande tout d'un coup, avec cette fusion, je crois que c'est quoi, en 2018. Donc c'est à la fois un monstre tentaculaire d'administration, d'institution, de faculté, Et à la fois, c'est vrai que c'est un lieu très, très riche. Quoi. Moi, j'ai la chance d'être en résidence là-bas et d'avoir une sorte de passe visiteur où je peux frapper pratiquement à toutes les portes et dire « Ah, ben, on ne pouvait pas faire ça ensemble ». Là, il y a deux jours, j'ai rencontré quelqu'un qui soufflait du verre dans la faculté des sciences même, qui fait en fait tous les tubes à essai pour tous les labos de chimie. Et je lui parlais d'un projet artistique à moi et elle m'a dit « Oh, mais grave, ça me botterait à fond de faire ça ensemble ». Donc c'est vrai que parfois, je fais des rencontres un peu folles comme ça. Et c'est vrai que je m'y attendais pas, quoi. Donc voilà.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, Gaspard Ravel, d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir partagé avec nous vos réflexions. Je vous dis à bientôt sur Radio Sorbonne.
Merci, Zina.
Merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir donné de votre temps à cette petite émission qui est Cours d'honneur. Merci beaucoup.
Cette grande émission. Mais Abel, j'ai un peu faim.
Mange.
Mais j'ai plus d'argent, on a tout claqué ensemble au bar.
Alors déjà, tu devais être toute seule au bar, moi j'étais pas là. Et ensuite, bien fait, tout ce qui te reste à faire, c'est écouter la chronique des brouilles.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Allez la vedette, à table!
Tu fais quoi comme étude, Lodine, en fait?
Mais je suis en lettres, gros bêta.
Pas original, t'es comme les 50% des gens de la fac, quoi.
Ouais, bah au moins, moi j'ai une âme d'artiste. Hein.
Justement, ça c'est pour toi. Jeanne, tu nous parles de trois bons plans pour des activités artistiques pas chères pour exprimer vos âmes torturées de littéraire.
Et oui, Abel, et oui, Lodine, car soyons honnêtes, qui autour de cette table ne rêverait pas d'avoir un petit prix Goncourt à mettre sur son rebord de meubles à télé ou d'être exposé au musée Beaubourg pour son tableau en jaune pissenlit digne de Picasso le cochon. Oui, oui, sa mort m'a beaucoup perturbée. Mais pour y arriver, ça fait deux fois que je fais la faute, il faut bien commencer quelque part et donc se lancer. Voici quelques idées d'ateliers pas chers dans Paris pour vous perfectionner, réussir à trouver les mots pour une phrase aussi élaborée que celle de Proust dans Ses beaux jours, ou encore apporter la touche manquante à votre composition que vous essayez vainement de comparer à l'art de Jeff Koons. Et commençons tout de suite avec l'atelier qui commence à se faire une petite réputation, j'ai nommé la papoterie. Dans ce lieu assez atypique, vous pouvez prendre un petit café en créant votre tasse vous-même. La boutique se présente comme un grand atelier rempli de glaises et de peintures. Les prix de l'atelier individuel varient de 8 € à 35. Avec cela, vous ne deviendrez peut-être pas grand designer chez Ikea, mais au moins vous pourrez remplacer votre vieille vaisselle en plastique par ces tasses un peu excentriques que vous avez réalisées vous-même. Ma deuxième adresse concerne davantage les écrivains en herbe, mais pas n'importe quel écrivain. Les révoltés à Marie Angelou et les German Stein, les engagés de la première heure. La librairie féministe Une tasse de thé et un livre à République propose tous les mois des ateliers d'écriture créative sur des thématiques variées. Les sessions en petits groupes sont animées par la journaliste Laura Sorandi et durent 3 heures. Cela vous laisse le temps de vous épancher en alexandrin sur votre vie amoureuse pathétique ou de réussir votre objectif de faire mieux que Marguerite Duras. Le prochain atelier aura lieu le 8 avril sur le thème de la sœur. Enfin, ma dernière recommandation est un peu particulière, car il ne s'agit pas d'un atelier en particulier. Non, non. Aujourd'hui, Tata Jeanne s'improvise et devient directrice de communication pour la mairie de Paris. Car je vais vous parler de la carte citoyenne. Invention que j'ai découverte il y a quelques années, même quelques temps, en me battant pour refaire ma carte d'identité. Cette carte, justement, vous permet d'accéder à toutes sortes d'ateliers proposés par la municipalité. Danse, peinture, écriture en bibliothèque municipale, linogravure ou même acro-yoga. Cette carte est accessible pour tous les habitants de Paris. Elle est accommodée sur le site cartecitoyenne.paris.fr. Après ça, vous pourrez continuer de râler sur Hidalgo, les JO et toute autre perturbation quotidienne qui, selon les dires, énerverait les Parisiens au quotidien.
Oui, ça m'énerve beaucoup. En plus, j'ai repris le vélo, j'en ai marre des travaux. Non, je rigole. Les activités artistiques proposées, qui va faire quoi là? Qui a écouté?
Est-ce que vous aviez testé déjà?
J'avais déjà pensé à la papeterie et j'ai réservé d'ailleurs pendant 3 semaines avec une copine. Et on s'était dit que c'était le truc parfait à faire avant les partiels pour se détendre et puis se mettre à la poterie aussi. Donc merci Jeanne de conseiller ça aux autres étudiants.
Tu es allée déjà?
J'y suis pas allée mais j'ai pris rendez-vous dans quelques semaines.
Ouais, moi aussi j'avais envie de le faire mais j'ai trop peur d'y aller et de faire un truc moche. Et après,
je crois que le but c'est de kiffer le moment avec ses amis.
J'allais dire de faire un truc moche.
Et d'ailleurs, ça peut coûter pas très cher parce que je crois que la grosse tasse coûte 50 €. Mais il y a des toutes petites tasses pour une 10 €. Donc avec un café, en fait, les étudiants, pour 10 €, on passe une heure et demie de détente.
Mais je balance, mais je crois que Marine y était allée pour son anniversaire. Mais elle m'avait dit que ça l'avait beaucoup angoissée. Voilà. Marine, si tu t'en connais.
De faire de la poterie, c'est angoissant.
Au lieu de... Il y a des gens que ça détend, mais apparemment, là, ça n'avait pas trop marché. Et toi, Zina, une activité qui t'intéresse?
Alors, moi, Jeanne m'a convaincue. J'ai hâte de voir le catalogue que Madame Hidalgo nous propose.
Un mot sur Madame Hidalgo, Mélie.
Oula, oh. J'ai pas de mots sur Madame Hidalgo parce que je suis pas parisienne, j'habite pas ici. Mais par contre, c'est vrai que la papoterie, ben, c'est pas très original, mais ça m'attire bien aussi de peindre sur des petites tasses, ça doit être sympa.
Mais pour le truc citoyen, moi je l'avais fait, j'avais ma meilleure pote qui me l'avait fait faire à mon arrivée à Paris. Et en fait, tu reçois tout un carnet avec plein d'activités. Il y avait des trucs incroyables, genre montgolfière et tout. Et vu que je suis un peu bête, je n'ai rien fait.
C'est pas
et il s'est périmé.
C'est pas le pass jeune ? C'est pas la même chose que le pass jeune ?
Je sais pas, ouais, c'est peut-être la même chose.
Ou t'avais, alors, t'avais pas fait une chronique débrouille sur ce truc, justement, l'audine, d'un carnet avec plein d'activités à proposer ? Non, il y a genre un an.
Ah, peut-être. Ah, c'est possible, mais j'ai fait beaucoup de choses, donc j'ai un peu l'Alzheimer, ouais. Donc j'oublie après. Mais
En tout cas, j'espère que, vu que c'est l'été, vous allez profiter de toutes ces belles activités. D'ailleurs, qui dit été dit sud, qui dit sud dit Marseille, qui dit Marseille dit Ricard, qui dit Ricard dit shit, qui dit shit dit quartier nord, qui dit quartier nord dit accent de cagole. Donc évidemment, c'est Folie de Jules qu'on s'envoie dans les oreilles.
Le regard qui tue fait tourner la tête. Son corps, son visage, ses mots, sa voix, ses manières. J'ai pris l'habitude de lever sur les nerfs. Oh, mon cœur le prend pas mal en ce moment. J'ai la tête ailleurs. Je me suis fait tout seul. J'ai tout assumé tout seul. Ils me font plein de scènes. Sur tes pays, mettre la haine. Je suis fait d'or, faux, plus que je traîne dehors. Et je les choque, choque, choque depuis toutes ces années. Et je danse, danse, danse dans l'audi reprogrammé. Je fais gaffe avec qui je traîne jusqu'au bout de la nuit. Je veux pas voir débouler les ennuis et la police. Et tu snapes, snapes, snapes comme tu veux t'ambiancer. Et tu tasses, tasses, tasses pour voyager tout l'été. Monte pas trop ta vie, ça attire la jalousie. Les gens aiment pas te voir réussir, c'est la folie. J'entends des poussettes, oh j'en ai marre, laissez-moi. Je veux pas savoir qui a fait quoi, qui a fait qui. Que ça me chauffe, chauffe, que ça me chauffe. Que ça me chauffe, chauffe. Que je les choque, que choque, que je les choque. Que je les choque, choque. Et je les choque, choque, choque depuis toutes ces années. Et je danse, danse, danse dans l'audi reprogrammé. Gaffe avec qui je traîne jusqu'au bout de la nuit. Je veux pas voir débouler les ennuis et la police. Et tu snapes, snapes, snapes quand tu veux t'ambiancer. Et tu tasses, tasses, tasses pour voyager tout l'été. Monte pas trop ta vie, ça attire la jalousie. Les gens aiment pas te voir réussir, c'est la folie.
C'était Jules sur Radio Campus Paris 93.9 de l'autoradio. Il est 20h30 et tout de suite, c'est la suite.
C'est la suite et je suis sûre qu'il ne sait même pas lire Jules Abel.
N'importe quoi, je l'ai vu hier à la bibliothèque.
Ah bon ? Mais d'ailleurs, cette histoire, ça me fait penser qu'on a du courrier.
À chaque fois qu'il revient, il m'apporte quelque chose. Il m'écrit.
Ah oui, les cartes postales.
À quoi ressemble la bise que Jules fréquente ?
C'est ce que va nous faire découvrir Maria Florencia. Alors maintenant, un peu de sérieux pour la visite guidée de l'endroit le plus studieux de Sorbonne Université.
La bibliothèque, c'est un espace qui est assez bien. Je pense que pour moi, qui est quelqu'un qui pense beaucoup, c'est un moment de calme où j'arrive à synthétiser mes idées. Juste le passage de moi dans les escaliers qui marche et qui m'apprête à prendre mes livres, c'est un moment qui est agréable. C'est-à-dire le toucher du livre, la sensation de, du toucher déjà, qui est bien. Et l'idée, c'est de se dire qu'on apprend énormément, on s'enrichit à chaque page. C'est un moment aussi qui est calme. On prend le temps de contempler, chose qu'on ne fait pas souvent. Et parfois, on regarde aussi les gens autour de nous et on s'en rend compte un petit peu de la chance en fait qu'on a de côtoyer ces belles bibliothèques parisiennes. Toute cette architecture, ces peintures, le bois aussi, je trouve ça joli et ça me rappelle plein de moments. Chez moi, souvent, la table est en bois, donc ça rappelle un peu de cette familiarité. Et aussi, c'est toujours très agréable de pouvoir discuter avec les bibliothécaires, d'avoir ce petit lien de contact avec eux, d'avoir leurs conseils, qui sont précis, et aussi d'avoir un peu une forme d'expertise, qu'on est submergé par les devoirs, des bibliographies à rendre. C'est toujours sympa d'avoir des bibliothécaires qui sont près de nous et qui sont là, qui nous comprennent, parce que la plupart ont été anciens étudiants. Ou même parfois de tout simplement tenir une porte et de voir quelqu'un nous sourire, qui comprend nos galères, parce que lui aussi, sans doute, doit rédiger un devoir, doit faire un mémoire. On se comprend dans cet espace, finalement. Et c'est plutôt agréable, parce qu'on est tous ensemble avec la même idée en tête. Réussir notre année. La chaleur du café, c'est extrêmement agréable. Il y a un distributeur d'eau qui est assez bien mis en valeur. Il y en a beaucoup à proximité. Dans la bibliothèque, on boit de l'eau, on se sent tout de suite plus attentif pour la suite. Ça donne encore plus envie de venir et de retourner.
On espère que vous avez apprécié cette petite carte postale. Merci Abel pour le double. Bon, alors autour du plateau, vous, la bise, ça vous parle ?
Moi, j'y vais hyper souvent à la bise dès que j'ai une petite heure de pause ou... aujourd'hui, j'ai eu 6 heures de pause entre mon dernier cours et là maintenant. Donc, j'ai bien pu observer les plafonds, les fresques et tout.
Ouais. Attends, mais pourquoi tu vas pour observer le plafond ?
J'y allais pour préparer le concours de l'IPJ, mais je me suis un petit peu évadée à un moment. J'ai regardé le plafond. C'est super joli, les fresques. Ça retrace l'histoire de la Sorbonne avec les plans et tout. C'est trop beau. Et après, on nous a viré de la bise. On est tous sortis comme s'il y avait eu une alerte à la bombe. On s'est fait un peu gronder par le monsieur, mais j'ai pas compris pourquoi. Mais c'était sympa.
Ah voilà. Bon, mais il vous a dit quoi ?
J'ai pas compris, mais il a rattrapé quelqu'un dans le couloir. Il lui a dit qu'il voulait plus le revoir ici s'il avait encore cette chose sur lui, mais je sais pas ce que c'était cette chose. J'ai pas compris.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre.
Nous allons mener l'enquête, cours d'honneur et sur le dossier.
Il faudrait regarder sur le compte Instagram de la BIS parce que la dame à la sortie, elle nous a dit que ce serait de fait fermé demain aussi.
Oh putain!
Peut-être que ce sera écrit dessus.
Non, mais c'est les punaises de lit. Hein. Abel avait raison.
Quelle est punaise? Non, je rigole. qui va à la bis réviser un peu là? Sauf Victoire qui n'a pas le droit d'y aller parce qu'elle est en L1.
Ah, petit chat.
Personnellement, je suis à Cligny en cours. Donc, je dois être dans une.
T'es en L1?
Un espace hyper blanc avec des petites couleurs orange. Vous voyez bien
là? Oui, mais moi j'y étais l'an dernier.
Toutes les couleurs, mais les pires couleurs accordées. Genre orange, bleu ciel, exactement. Vert.
Un peu comme les sièges de métro finalement.
Attention, Victor va parler. Il faut qu'elle branche son micro. En attendant, Zina, la bise, qu'est-ce que t'en penses?
Moi j'aime beaucoup la bise.
Ah merde, c'est le bon micro qu'elle a débranché. C'est pas grave avec le micro.
Oui, moi j'aime beaucoup la bise parce que c'est une très bonne ambiance. C'est un lieu magnifique. Moi,
Zina, je suis désolée, je t'interromps. En fait, là ça enregistre pas.
Arrête.
C'est parce que mon micro peut pas être branché en même temps que le sien.
Je suis désolée, c'est un micro-main, il n'est pas en même temps que mon micro-pied. Mais non, tout le reste, c'est bon. Juste parce que je me suis sentie très agressée par ta remarque, Abel. Donc, je préfère ne pas avoir accès à la bis, mais ne pas non plus être à Clignancourt. Voilà. C'est pas une compétition. Tu as
un pour ça ?
Oui, oui.
Mais t'as quelle fac, déjà ?
Malesherbes.
T'as la fac, toi ?
C'est M2.
Ok. Et, bah,
et Zina, on n'a pas eu le mot Zina, du coup. Bah oui, moi, Zina, je veux entendre Zina sur la bis.
Moi, je n'ai qu'un avis très, très positif sur la bis. Je trouve que c'est magnifique. Je me souviens, à Lyon, les bibliothèques n'étaient pas du tout comme ça. C'était un peu comme Clignancourt. Voilà, c'était un peu dans le même état d'esprit. Donc là, je suis ravie.
Lyon 1, Lyon 2, Lyon combien ?
Lyon 2.
Ok.
Lyon 2, Lyon, c'est chouette comme ville. Moi, j'aime bien. Et tu sais d'ailleurs, Abel, ce que j'ai découvert au fil de mes petites enquêtes, à part mes enquêtes sur la bis ?
Non, dis-moi.
Eh bien, prépare-toi. J'ai découvert que Thomas aimait les pieds.
Et le gros dégoûtant. Enfin bon, on est woke ici, on a l'esprit ouvert. Alors si parmi nos auditeurs, il y a des kiffeurs de pieds, c'est votre moment.
Shut up.
Ce qui est inconnu ou mal connu excite l'imagination.
Il boude parce qu'il y a des tas de journalistes qui peuvent venir et qui ne sont pas venus.
Ah bon ? Quand ils disent qu'ils viennent, ils viennent pas ?
Moi, le seul pied que je touche, c'est celui de Montaigne.
Pourquoi ?
Parce qu'il porte bonheur à Belle. N'est-ce pas, Isa ?
Yes. Eh bien, Laudine, chers étudiants, dans les annales de nos vies estudiantines, il existe des traditions singulières, parfois superstitieuses, qui se sont enracinées au fil des siècles. Et parmi celles-ci, une pratique peu conventionnelle, le rituel de caresser une statue. Oui, oui, vous avez bien entendu. Souvenez-vous de la tombe de Victor Noir au Père-Lachaise. D'après la légende, le fait de frotter le sexe de la statue allongée procurerait fertilité et virilité. Mais à l'approche des examens...
Mes amis, au secours !
C'est bien la réussite qui attire notre attention, et pour cela, la statue de Michel de Montaigne, érigée au cœur de Paris, rue des Écoles, offre un espoir particulier. Ce monument... Une œuvre magistrale sculptée par l'artiste Paul Landowski a été offerte à la ville de Paris en 1934 par le docteur Armego, soutenu par Louis Barthou, président de la Société des Amis de Montaigne. Mais cette statue ne se contente pas de trôner statiquement. Bien qu'en bronze, Montaigne est loin de rester de marbre face à vos tourments académiques. Il est assis, bras et jambes croisés, dans toute sa bienveillance, presque comme s'il attendait patiemment de converser avec les passants. L'histoire de cette tradition remonte à bien des décennies. En 1921, le conseil municipal de Paris considère une pétition, présentée par le docteur Armego, pour placer la statue de Montaigne dans le square de la Sorbonne. 10 ans plus tard, en 1931, alors que les lenteurs administratives retardent le projet, les choses n'ont pas bien changé, vous remarquez, le docteur Armego déplore la situation et sollicite l'intervention de Landowski. Et c'est en 1932 que le comité de technique et d'esthétique approuve l'idée d'ériger le monument dans la rue des Écoles, dans le square Painlevé. La légende veut que caresser le pied droit de Montaigne confère une chance supplémentaire de réussir ses examens. Et oui, un geste simple, presque anodin, mais chargé de signification pour les étudiants anxieux qui défilent dans le couloir de la Sorbonne. Alors avant de se lancer dans l'arène des épreuves académiques, il est de coutume de murmurer un petit « Salut Montaigne !» comme pour invoquer la bienveillance du philosophe. Rappelez-vous, nous sommes le 20 mars, journée internationale du bonheur, peut-être le jour idéal pour faire un vœu de réussite. Bien que ce rituel ait été initialement lié à une statue en marbre, en 1989, une réplique en bronze remplaça l'original, érodé par des générations d'étudiants. Mais ce changement matériel n'a en rien altéré la croyance ou la pratique de cette coutume, l'usure constatée sur la chaussure de la statue témoigne même de sa persistance. Alors peut-être que dans ce geste en apparence anodin mais chargé de symbolisme, les étudiants trouvent un réconfort, voire une inspiration pour affronter les défis académiques qui les attendent. Alors à ceux qui ont travaillé d'arrache-pied...
Si tu peux voir ce qui n'existe pas, conçois dès lors que tu peux ne pas voir ce qui existe.
Ou bien à ceux qui ont levé le pied... N'hésitez pas à prendre votre pied, selon la rumeur, c'est source de succès. Et bien sûr, on embrasse notre montagne de bronze, puisqu'on fête cette année ses 90 ans aux côtés de la Sorbonne.
Bon anniversaire, ouais. La statue de Montaigne. Frotter le sexe d'un certain mec au Père Lachaise, ouais. Pour fertilité et je ne sais quoi, et puissance, ou je ne sais pas quoi. C'est pour Thomas qui nous écoute. Pourquoi ? L'autre jour, j'étais au bar et ce pauvre Thomas, qu'est-ce qu'il me dit ? Bah, il se confie sur ses problèmes d'érection. Alors, mon cher Thomas, va frotter. Mais alors, la tête de Victor qui y croit, genre. Victor qui y croit à ce que je raconte. Non, mais c'est juste quand il va écouter le podcast, il va se dire ah putain, merde. Et il a dit. Alors qu'en fait, il fallait pas que
je non, mais je comprends mieux parce que moi, j'habite à côté du Père Lachaise et c'est vrai que je vois Thomas tous les matins.
Et tous les soirs.
Non, mais tous les
soirs. Avant de rentrer.
Attention, il va rester dans le sud, là.
Et bon, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont faire ça au Père Lachaise, mais par contre, frotter le pied de montagne, il y en a qui l'ont déjà fait ici.
Moi, je ne l'ai jamais fait, mais ça m'a fait penser à Lilou. J'ai juste un petit mot à lui dire, c'est qu'elle en avait parlé une fois, il me semble, en parlant de... un pavé culture sûrement. Et la dernière fois, elle parlait du soleil et qu'elle était contente que ce soit bientôt le printemps. Bah, c'est aujourd'hui.
Ah, c'est le printemps aussi. Donc, mais bisous Lilou,
c'est le printemps aujourd'hui.
C'est aujourd'hui le printemps.
Ouais.
Tout s'explique.
Comment ça fait quel bruit les oiseaux, Lodine? Je pense pas que t'allais bien le faire.
T'as vu, un bel oiseau.
Sachez qu'il nous reste énormément de temps avant de cette fin. De temps avant la fin de cette émission. Si quelqu'un a une petite dédicace, un petit mot à dire, si Victoire veut rajouter un petit grain de sel dans cette émission qui n'est pas peut-être pas à son goût, c'est le moment. Ok, le temps qu'elle s'installe. Quelqu'un a un petit mot à faire passer à sa famille, à ses amis. Allez, c'est le moment. Ok, wow.
Moi, je me demandais, puisque c'est la Journée internationale du bonheur, est-ce que vous êtes heureux ?
Ah, c'est une bonne question. Sur une échelle de 1 à 10, vous placeriez comment ?
Et Victoire, elle commence.
Un petit élément.
Sachant que le micro ne marche pas, donc parlez douce dans le micro de Isa Margaret, s'il vous plaît.
Et du coup, Victoire, t'es heureux sur un 10 de combien ?
Ça va, jusqu'à ce que je mette le son de Brise de Nice au lieu de ceux de Isa Margaret. Jusque-là, tout allait bien. Voilà.
Ok.
Mais elle n'a pas donné l'échelle.
Un petit élément qui te rend
heureuse.
Sur
10, ins. Ah, ok. Ins, ins. Et un petit élément qui te rend heureuse ?
Vous.
Ah.
Oh, mais... Ok, Mélie, un élément qui te rend heureuse, du coup ?
La chim. On est trop bien à cours d'honneur. C'est trop fun et à chaque fois je suis contente de venir et ça refait ma journée et ma semaine.
Lodine, elle m'a dit qu'elle est heureuse depuis que Thomas n'est plus à cours d'honneur. Je dis ça comme ça.
Mais non, j'ai pas dit ça à Thomas. Attends, arrête, après il va plus vouloir sortir.
Chez le fille. Ok, Jeanne, elle veut pas parler.
Non, elle est pas heureuse. Non, voilà, c'est la dépression, il faut que je me confie. Non, non, tout va bien. Qu'est-ce qui me rend heureuse ? Bah ouais, l'équipe. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde après ça ?
Le soleil,
bah oui, l'équipe. Ouais. Le printemps, évidemment, le printemps. Les ce petit oiseaux. Soleil dans la cour d'honneur, merci beaucoup, tu m'as refait ma journée.
Et bientôt les vacances.
Et ce qui va rendre heureuse Victoire, c'est le montage qui va se taper de cette émission, vu toutes les merdes qui ont été dites et faites.
Et oui, parce que c'est déjà la fin de cet épisode spécial de cour d'honneur. Merci, chers auditeurs, d'avoir été là jusqu'au bout.
On le sait, vous auriez aimé que cette émission dure toute la nuit, mais en attendant, vous pouvez réécouter tous nos épisodes sur nos plateformes et nous suivre sur nos réseaux sociaux Cours d'honneur tout attaché sur Instagram.
Ne ratez surtout pas la prochaine émission spéciale du 25 au 28 avril en direct de Bagnoul-sur-Mer.
Merci à toute l'équipe, on commence par Mélie, merci Mélie.
Ah bah merci à vous, c'était super.
Jeanne, qui est là aussi, merci Jeanne.
Merci à tous.
Merci Zina.
Merci beaucoup tout le monde.
Et merci Isa et Margaret.
Eh bien, merci beaucoup, c'était un plaisir.
Et super première émission pour notre petite stagiaire Victoire. Ok, Victoire.
Si, merci, c'était super.
On pense fort à tous ceux qui n'ont pas été là ce soir.
Et puis on remercie aussi Radio Campus et le service culturel pour leur soutien inébranlable.
On se retrouve dans 2 semaines. D'ici là,
prenez soin de vous. Bisous. Ce qu'on veut, c'est vraiment retourner à l'université.
J'ai pas réussi à rendre tous les DM.
Tu vois, je suis vite distraite.
T'as rien oublié. Effaceur, Tipex, ton goûter, t'as ton goûter.
C'est-à-dire que le plus beau cadeau qui nous a été fait depuis qu'on est petit, c'est
la cour d'honneur.
J'ai aussi écrit un courrier au président de la République parce qu'on sait jamais. Hein.
Bah, ça va tout changer parce qu'en plus, j'habite à Paris. J'attends, est-ce qu'il y aura un autre confinement et est-ce que je vais pouvoir travailler.
90% du temps était voilà, dans sa chambre, sur son lit.
J'ai foulé le sol de la cour d'honneur pour la première fois. J'ai pas été impressionnée.
S'il tressaille, on frissonne.